au réseau Cogeco, vous écoutez Entre nous avec Sylvain Ménard.
De retour entre nous, celle que vous entendez là, c'est Guylaine Tanguay. Ce matin, on la reçoit en compagnie de René Martel. Guylaine Tanguay, Elvis, quand on parle justement du mélange des genres, ça aussi, Burning Love, c'est difficile de trouver plus country comme chanson, hein?
Ben moi, je me suis fait plaisir. J'aime ça, moi, faire des petits détours dans ma musique. J'aime ça emmener les gens ailleurs avec moi. Et le projet Elvis, je l'avais en tête depuis longtemps. Quand j'ai décidé de le faire, d'abord, j'ai voulu l'essayer avant. Je me suis dit, là, on va sortir une guitare acoustique et on va essayer des chansons, voir si ça peut marcher country.
Parce que c'est comme ça qu'on essaie une chanson.
Oui, puis quand on veut voir si ça va marcher, ça prend pas tous les artifices autour, là. Alors, on s'est assis, Steve Mandel à Nashville et moi, puis on a parti tout plein de chansons d'Elvis et je tripais parce que je me disais, waouh, ça marche tellement, ça. Juste une version acoustique avec une guitare, c'est déjà country. Alors, j'avais la confirmation qu'on pouvait faire ce projet-là country.
Ouais, mais Elvis était très country.
Ben, c'est exactement ça.
Elvis, c'est la base de ça.
C'est que jamais renier ses origines.
Non.
Quoi qu'elles soient.
Mm-hmm.
Il était country. Non, il pouvait aussi faire dans le gospel, on en a souvent parlé.
Oui, ben oui.
C'est quelqu'un qui ne se privait pas, justement, qui n'avait pas de barrière dans sa musique. Mais on a une vénération pour les. Dans la grande famille country, il y a aussi le respect de ceux et celles qui sont passés avant. Mm. Je pense à Patsy Cline, par exemple.
Oh my God, oui.
Ou Willie Nelson, qui est encore là, qui livre encore des albums sur une base régulière.
Ouais.
Pourtant, il est pas jeune, Willie Nelson. Il est dans le 80.
Il a mon âge.
Oh non, non. Je pense qu'il pourrait jouer facilement le rôle du grand, grand, grand frère.
Willie Nelson qui fait encore des spectacles. Kenny Rogers qui fait encore plein de spectacles. C'est impressionnant.
Ça fait partie de l'ADN des artistes country.
Oui.
D'avoir une certaine durabilité.
Oui, longévité,
c'est du bon qui sont. La longévité, c'est le mot que je cherchais. C'est ça, la longévité, mais aussi de se promener avec des expériences de vie qui sont souvent assez, qui sont remplies d'épreuves.
Et bonté, tu viens de m'embarquer dans quelque chose. Moi, je suis encore très privilégiée dans ce métier-là.
Oui.
Dans ce milieu-là, parce que j'ai un public qui m'a élevée. J'ai été leur enfant, j'ai été leur ado, j'ai été la blonde de leur fils, j'ai été toute moi.
Mm-hmm.
Là, je suis rendue le grand-mère, là. Mais il reste que le public québécois, le public le mien en tout cas, moi je viens de la génération où on adoptait l'artiste.
Mm-hmm.
On adoptait la personne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux avoir trois hits, puis tout d'un coup, t'en as pas, mais c'est passé à autre chose. C'est la personne qu'ils aiment.
Oui.
Alors moi, quand j'ai vécu, puis Dieu sait que j'en ai vécu deux, trois, quand j'ai vécu des choses difficiles, les gens ont pleuré avec moi.
Des très mauvais moments. Là,
oui, des très mauvais moments. Les gens ont pleuré avec moi. Je me souviens que je faisais des spectacles. Et maintenant, c'est comme établi à chaque fois que je fais un spectacle. Ça aussi, ils m'ont suivi dans des moments heureux.
Oui.
Là.
Ben oui, forcément.
Ben oui, mais tout ce qui m'est arrivé, les gens l'ont vécu avec moi. Ce qui fait que aujourd'hui et depuis longtemps, quand je rentre sur scène, je dirais que 90% des fois. Les gens me disent « on t'aime » avant que je chante ma première note.
Guylaine Tanguay, cette année, il y a eu une biographie dans laquelle il y avait quand même pas mal de révélations. Quand on parle d'expérience de vie pour les artistes du country, on dirait que vous êtes des concentrés d'expérience de vie, les artistes du country. Vous en êtes, vous êtes porteurs, porteuses de plusieurs expériences. Se livrer comme ça, par exemple, on aura beau dire, là, c'est pas facile.
C'est pas facile, mais moi, j'en avais besoin à ce stade-ci de ma vie.
Pourquoi?
J'en avais besoin parce que je m'ouvre de plus en plus aux gens avec toutes les entrevues que je fais. Les gens me connaissent et pour moi, c'est important qu'ils me connaissent au-delà de la chanteuse et qu'ils me connaissent plus en profondeur qu'en surface. Mmh. Moi, j'aime ça être vraie et dire les vraies affaires. Moi, je suis une personne assez en direct. si je le dis pas, ça mm-hmm. paraît dans ma face. Fait que les affaires sont difficiles à cacher pour moi. Et là, j'étais rendue à une période de ma vie où il y avait toujours une petite ombre qui planait au-dessus de ma tête. Et c'était des choses que je n'avais jamais révélées. Et même à mes enfants. Et j'avais besoin de sortir ça à un moment donné. Je voulais me libérer. On me posait souvent quelques questions sur mon passé dans mes entrevues. Et j'essayais de m'arrêter le plus vite possible parce que je voulais pas commencer à expliquer les choses.
Oui.
Et si tu ne veux pas expliquer tout croche, ben tu fais quoi? Tu l'expliques comme il faut une fois. Et c'est ce que j'ai fait en faisant ma bio. Ça a été excessivement difficile. Mm. Ça m'a fait aussi beaucoup de bien à moi et à ma famille. J'en avais besoin pour moi. Ma mère est toujours vivante, mes deux frères, bien sûr. Oui. Mon père est décédé, mais il fallait que je fasse ce pas-là dans ma vie. Il fallait que mes filles aussi se rendent compte à quel point nos filles sont pas toujours pareilles et faciles aussi. Et maintenant, ben tout le monde le sait. Et pour moi, c'est comme une façon d'avancer.
Ouais.
Sauf que de livrer ça, c'est pas un mince détail.
Non, pas du tout.
René Martel.
Oui.
Des entrevues, c'est pas la première entrevue que tu donnes ce matin. C'est ça.
Non.
Généralement, on va loin des entrevues.
Absolument.
On se permet de poser des questions la personne qui était devant nous et.
Ben, c'est que moi, j'en ai écrit 3 livres et je vais te dire une chose. Ça a été difficile parce que, on sait, moi, j'ai eu une relation conflictuelle avec mon père pendant des années. Et c'était difficile de toucher à ça, étant donné la notoriété de mon père.
Forcément.
Et mais j'en ai énormément souffert parce que mon père n'avait pas le talent d'être un père. C'était un chanteur, point final, mais ça, c'était vraiment dans la vie de 24 heures, là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, j'ai couru après mon père toute ma vie. C'est arrivé 15 ans avant qu'il décède. À un moment donné, je me suis fâchée. Et je c'est drôle parce que c'est la façon que c'est arrivé, là. J'étais dans l'auto avec mon père et puis j'avais été acheter une ligne à mouche pour mon chum qui est devenu mon mari, là. Puis mon père connaissait ça, la chasse, la pêche, tout ça. En tout cas. Puis j'étais allée et à un moment donné, je conduisais, on est sur le boulevard Tachereau et mon père se met à pleurer. Moi, là, qu'est-ce que t'as? Alors, j'ai stationné. Et il dit pourquoi on n'est pas proche. Mon père n'avait jamais eu de respect pour moi. Il me traitait tout le temps comme si j'avais 5 ans, 6 ans. Mais j'étais rendue une mère. J'étais quelqu'un de respectable. La seule personne au monde qui me respectait pas, c'était lui. Alors c'est ce que je lui ai dit. Il dit je me suis jamais rendu compte de ça. Ben j'ai dit il est temps que tu le saches. Et mon père m'a pris dans ses bras en pleurant et dit « Je te promets que ça arrivera plus jamais. » Et à partir de là, j'ai eu un père. J'ai eu un père, mais j'ai couru après mon père toute ma vie. Toute ma vie, juste pour qu'il me dise qu'il m'aime. Et finalement, cette fois-là, et je me souviens que quand j'ai été habiter au Maroc, j'ai habité 3 ans au Maroc, mon père m'appelait toutes les semaines, me dit qu'il m'aimait. J'ai dit, mon Dieu, hey, t'appelles au Maroc pour dire à ta fille, tu oublies pas que je t'aime. Hein? Alors, j'ai senti à quelque part que pour lui, ça y avait énormément manqué, qu'il m'avait toujours aimé, mais qu'il savait pas comment dealer avec ça. Et j'ai eu les 15 plus belles années avec mon père avant qu'il décède.
Donc, il est jamais trop tard.
Il est jamais trop tard. Mais ça a pris 38 ans.
C'est ça. Ben, ça me ramène à la biographie de Guylaine Tanguay. Il y a des affirmations dans cette bio-là. C'est quand même particulier de parler de pauvreté. C'est un sujet, on a toujours l'impression quand on a atteint un certain statut, un certain confort, puis tant mieux, que ces années-là, c'est pas qu'on les oublie, mais on aime mieux les garder en arrière.
Ouais.
Or, dans cette bio-là, et l'implication cette année avec la Guignolée, c'est parce que tu étais très bien placé pour en parler, toi.
Oui, absolument. Moi, c'est pas des histoires des autres que je raconte.
La pauvreté, des besoins non comblés, d'avoir faim.
Oui, puis de toujours se casser la tête pour savoir si ça va marcher. Pourtant, quand t'as un père qui travaille, c'est ça le pire. Quand tes parents ont pas de travail, là, ben quand t'es un enfant, tu peux te soucier de ce qui va arriver. Mm-hmm. Ton père travaille, ma mère chantait aussi.
Ouais.
Puis moi, je chantais déjà à cette époque-là, je faisais un petit peu d'argent aussi. Puis mon père, ben il passait tout cet argent-là, soit en boisson ou soit dans le jeu. Et plus encore, fait qu'il nous endettait toujours, toujours, toujours. Donc moi, je me disais, comme enfant, on s'en sortira jamais. Qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Alors moi, l'argent dans ma vie, ça a toujours été un souci. Et à un point qu'il y a une année là, qu'on a eu même besoin d'un panier de Noël parce qu'on était rendu sur l'aide sociale et tout ça. Mais aujourd'hui, je suis pas gênée de le dire parce que je trouve que justement, ça nous dit, ben comme tu disais, René, il est jamais trop tard. Ben il est pas trop tard non plus pour en parler, puis pour apprécier aussi ce qu'on a. Hein, c'est important.
Mais je vous entends toutes les deux et il y a quelque chose qui ça crève l'évidence là, le stress des enfants. Ne jamais croire qu'un enfant, c'est un ange qui sent rien et qui voit rien.
Non, les enfants voient tout.
Ça absorbe tout.
Moi, il y a deux choses. C'est bien sûr que quand j'ai écrit mes livres et que j'ai parlé de cette relation-là avec mon père, je risquais beaucoup. Premièrement, le premier que j'ai écrit, mon père était vivant.
OK.
Et puis, ça y a fait mal. C'est après ça là, qu'on s'est réconcilié, mais il reste que je risquais beaucoup de perdre un très large public parce que tout le monde aime mon père. Mais ce que les gens ont compris finalement, c'est que j'adorais mon père. Je l'adore encore, ça fait 20 ans qu'il est mort, puis je l'aime encore.
On en parle encore au présent. Là.
Oui, absolument. Et pour les enfants, ben c'est sûr que on ressent tout. Les enfants ressentent tout. Et moi, ce que je trouve, c'est que pour une femme, faire ce métier-là et élever des enfants, ça relève du miracle.
La conciliation travail-famille, on en parlait avec Guylaine tantôt.
C'est très dur parce que tu sais, je veux dire, t'élèves tes enfants et à partir du moment où t'as des enfants, il faut t'aller faire un show à l'autre bout du monde. Il y a une culpabilité qui s'installe. Ben et moi, je me suis sentie coupable face à mes enfants pendant des années.
Parce que le soir où c'est le spectacle de fin d'année du petit, vous êtes en spectacle
là,
à l'autre bout de la province.
Ben moi, j'ai sacrifié quand même quelques années de carrière pour rester à la maison.
Ouais.
Moi, je l'ai fait, ça. Moi, oui.
Je l'ai fait pendant six ans, moi.
Moi aussi, okay. Je l'ai fait.
Pour élever
j'ai pas
les enfants. Mais il reste que, quand mon fils était petit, surtout, c'est surtout mon fils. Je me suis sentie tellement coupable. Puis mon fils, je lui ai manqué énormément.
Ouais.
Et il y a eu des carences à cause de ça. Aujourd'hui, il va avoir 45 ans. Il en est revenu, là. Mais il reste que il y a eu des carences, il y a eu des choses où il a été obligé de dealer avec
ça. Non, on n'est pas parfait. On essaye de tout faire en même temps. Notre travail, c'est sûr que ça prend beaucoup de place. C'est sûr, hein? C'est normal.
Les enfants, moi, j'avais dit à mon fils, j'attends d'avoir des enfants, tu vas voir. Aujourd'hui, mon fils a des enfants.
Mm-hmm.
Et il a été batteur, il a été mon batteur pendant 6 ans. Et il a compris.
Mm-hmm. Ouais.
Oui, il a compris.
Pis ça me rappelle une phrase de Jeannette Bertrand. Hey, c'est la première fois que je suis mère, moi. Laissez-moi une chance.
Exactement. Et moi, je suis pas mal, moi, de dire à mes filles que je suis pas parfaite, hein.
Moi, je
suis très à l'aise avec ça.
Mais vous êtes douée pour quelque chose, par exemple, toutes les deux, ça, c'est clair, clair.
Parler?
Oui, parler, puis faire la fête aussi. Avec l'album de Guylaine Tanguay. L'album du temps des fêtes qui est sorti cette année. Un très bon disque en passant.
Merci
Sylvain. Qui donne le goût de partir sur le party. Que les fêtes commencent avec Guylaine Tanguay.
La bouffe, le vin, la bière. N'oubliez pas vos petites misères, les amis, la parenté, tout ce beau monde-là va débarquer, que les fêtes commencent. Noël arrive à très grands pas, comme toujours on se dit pas déjà, on prépare le linge pis les plats, même si nos batteries sont à plat, on veut tout faire et ne rien faire. On veut sortir mais se reposer. On est fébriles et fatigués, mais on finit par s'amuser. On espère à ce petit congé. On rêve de regarder la télé, de ne pas s'habiller ni de se maquiller. Mais oublie ça, il faut bouger. Que les fêtes commencent. Sortez la bouffe, le vin, la bière. N'oubliez pas vos petites misères. Les amis. reste de mes nuits pas obligées. Mais une tradition, c'est sacré. Mon nom Gaston vient d'arriver. Mes nuits chrétiennes nous fait pleurer. Tous les enfants en pyjama. Ça, c'est fun, tout le monde aime ça. Pendant ce temps-là, moi, je regarde ça. Et je me dis, quel bonheur, c'est ça. On rit, on jase et on s'amuse. On ne voit pas le temps passer. Même le soleil qui s'est couché. Il est sur le bord de se réveiller. Que les fêtes commencent. Sortez la bouffe, le vin, la bière. N'oubliez pas vos petites misères. Les amis, la parenté. Tout ce bon monde en va débarquer. Toute la gang est invitée. Sans oublier, sans oublier. Que les fêtes commencent. Que les fêtes commencent. Pourtant on était fatigué, bien avant même de commencer. Mais c'est comme ça dans les veillées. Puis quand on est bien réchauffé, une fois que Noël est terminé, on pense à la nouvelle année. De recommencer même bien brûlé. On sort le vin, ça va aider. Après qu'on se soit tous souhaité nos voeux avec sincérité. Pour se rappeler du temps passé. Même si parfois ça fait pleurer. Que les fêtes commencent. On sort la bouffe, le vin, la bière. N'oubliez pas vos petites misères. Les amis, la parenté. Tout ce beau monde va débarquer. Toute la gang est invitée. Sans oublier, les oublier. Que les fêtes commencent. Que les fêtes commencent. Que les fêtes commencent.
On est en studio avec Guylaine Taguay, René Martel. On a continué à jaser pendant la chanson. Ben ça, dans le temps des fêtes, qu'est-ce qui se passe? On écoute de la musique, puis on jase.
C'est ça.
C'est exactement ce qu'on fait présentement. 2019, pour vous deux, c'est de grosses années. Guylaine Taguay, je regardais la liste de spectacles comme je regardais la liste de spectacles de René Martel. Mais Guylaine Taguay, ça va commencer de bonne heure. Et ça se rend, l'année 2019, ça rend jusqu'en 2020. Hein?
Oui, c'est ça. La tournée commence fin janvier, début février. 3764 Elvis Presley Boulevard, ça commence au Casino de Montréal. Et ça se poursuit presque jusqu'en 2020.
Est-ce que c'est seulement autour de l'œuvre d'Elvis ou il va aussi avoir des...
Elvis a fait du country. Elvis a ramené des grands classiques country. Oui. Donc, on tourne autour de tout ça avec des danseurs sur scène.
Avec des danseurs.
Yes, monsieur, je me fais plaisir.
Ça, c'est une autre affaire que les artistes country ont. Puis René Martel, toi aussi,
moi, j'en ai pas, c'est moi-même qui danse.
non, mais il y a plusieurs spectacles qui sont déjà programmés au Casino de Montréal, entre autres. Ben, tout le monde fait le Casino de Montréal.
Moi, je commence le 21 mars.
Oui.
Et ça va jusqu'en 2020-2021, je sais pas, là, c'est...
Mais vous faites pas dans des formules économiques. C'est-à-dire que vous vous promenez avec des bandes, pis ça fait...
Ouais.
On se promène en famille, en gang.
Ça me prend mes musiciens. J'ai une équipe technique, j'ai une équipe depuis des années, et il n'est pas question que je change mon équipe, là.
Merci.
J'ai le même chef d'orchestre, ça fait 20 ans qu'il est avec moi.
Ouais.
Fait que j'espère qu'il m'aime là, mais
on est à même de le présumer.
Ben oui, je pense que oui, mais non, c'est mais j'en ai pour la tournée, j'en ai 4.
Mais encore là, c'est une histoire de famille.
Oui, tout le temps.
La famille de tournée. Quand on parlait de l'éloignement tantôt, c'est bien beau aller rencontrer des gens dans leur patelin.
Oui, mais on part avec notre gang. On part avec... moi, je pars avec une sécurité.
Oui.
Je pars avec mes musiciens qui sont là. Mike Pucci. Là. Mike Pucci, j'avais 29 ans là quand j'ai commencé à travailler avec Mike. Et puis, il est encore là. Donc, je pars avec du connu.
Ouais, c'est important.
Du connu, puis de la sécurité, puis même sur scène, ça prend des gens qui te connaissent, il y a une complicité. S'il arrive quelque chose, je regarde mon chef d'orchestre, puis tout de suite, c'est arrangé.
C'est ça. Même chose.
Moi, je me tourne, puis j'ai mon Sébastien Dufour, je me tourne, j'ai juste à le regarder, c'est exactement ce que je veux dire, ce que je veux faire. Où je veux m'en aller, où il faut pas aller. On se connaît par cœur.
C'est ça.
Mes musiciens aussi, moi, il y en a qui se fait au-delà de 20 ans que je connais aussi là-dessus. Donc, c'est une assurance. Hein. On se tourne, puis on est en terrain connu.
Ouais.
Ça, c'est la plus belle sécurité. C'est une valeur pour un artiste hein, d'avoir tout le temps la même gang.
Oui.
C'est C'est une grande valeur.
Oui,
ça.
Mais généralement, ce qu'on a appris au fil des années, c'est que les bons artistes gardent les bons collaborateurs, les bonnes collaboratrices.
Exactement. Moi, je suis mariée pour le meilleur et pour le pire dans mon mariage et sur scène aussi.
C'est ça, mais généralement, les artistes avec qui c'est difficile de travailler gardent pas les mêmes familles bien longtemps.
Ah, ben là, ouais, mais c'est compliqué partout pour eux autres. On est fine.
Moi, je suis belle.
On est fine. C'est pour ça qu'ils restent.
On est fine.
C'est pour ça qu'ils restent. Mais ils ont du fun avec nous autres.
Moi, je me dis, si ça faisait pas leur affaire, mais il reste une chose. Quand t'as des musiciens, si tu veux les garder, il faut que tu travailles. Si tu fais trois shows par année, oublie ça.
C'est la masse
qui
garde.
Mais moi, les musiciens, je travaille tout le temps. Je suis continuellement en tournée. Et quand je suis avec les productions Martin Leclerc, puis Martin a beaucoup de productions sur la route, ce qui fait que quand mes musiciens ne travaillent pas avec moi, je les ai bookés ces productions.
Oui, sauf que il y a quelque chose qui est très, c'est facile de le constater dans votre cas, les gens, vous aimez beaucoup les gens avec qui vous travaillez, mais les gens qui travaillent avec vous vous adorent.
Ouais, ça aussi.
C'est un respect. Hein?
C'est vraiment quand moi j'arrive là, puis on se prend, puis on s'aime.
Il suffit de jaser avec les gens de vos entourages respectifs pour savoir que ces gens-là vous adorent.
Ils ont-tu dit du mal de nous autres?
Non, pas de farce.
Mais c'est important, c'est drôle à dire, mais moi c'est aussi
qui est rare.
Important que le succès. Moi, je carbure beaucoup plus aux attentions et aux impressions que les gens ont autour de moi, sur moi, par rapport à moi. C'est-à-dire que moi, je veux qu'on soit tout le monde respectueux un envers l'autre. Oui. Je carbure bien plus à ça qu'au succès.
Exactement. Puis on veut que notre entourage nous aime, mais c'est réciproque. On les aime parce que, je veux dire, je perdrais pas de temps avec un entourage que j'aime plus ou moins.
Mm-hmm. Ben, en tout cas, moi, ce matin, je vais vous dire que j'ai beaucoup aimé.
On jase,
l'heure
qu'on
vient de jaser.
Vraiment, c'est très content.
On faudrait refaire une deuxième heure, peut-être l'an prochain.
Mais c'est ça,
oui. Parce que là, c'est ça, faudrait parler de voyage la prochaine fois.
Oh, ça, j'aimerais ça.
Oui, quand j'ai appris que René Martel t'as jamais allé à Londres, là, je me suis dit,
non. Le chanter.
Faut régler ça.
J'ai dit à ma fille, toi, t'es allé, moi, je l'ai chanté.
Bon, ben, parfait. On va se quitter simplement. Tout simplement. Avec la chanson Simplement de René Martel. Merci, Guylaine Tanguay.
Grand plaisir. Passez des belles fêtes.
Merci, René Martel. Bye bye.
Doucement, je me prends à regarder derrière. La vie, c'est beau moment et aussi les revers du temps. J'ai compris qu'en chantant, je me sentais tout entière. Il me coulait dans le sang, l'art et le savoir-faire.